Philippiens, chapitre 4. Il y a des gens qui sont complètement dirigés par leurs pensées, alors que c'est notre volonté qui devrait diriger nos pensées. Vous l'avez vérifié, le matin, vous commencez en chantant un cantique, en lisant un psaume. Vous n'avez pas vu comment la journée commence différemment? Oui ou non? Vous vous levez, mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits, je te remercie. Vous avez vu comment dès qu'on commence à contrôler nos pensées, ça change la teneur de la journée? Vous l'avez tous vérifié. Si vous commencez avec un esprit de découragement, un esprit de défaite, oh il pleut, on va passer une mauvaise journée. Oh, mais ça c'est pas la pensée de Christ. Hein? Bénissez Dieu s'il pleut, je vous le dis. Bénissez Dieu. Philippiens chapitre 4, versets 8 et 9. Ce verset nous enseigne que c'est à nous de contrôler nos pensées. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, voyez la vérité, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Après, il ajoute ce qui est important, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, vous avez vu la conséquence, et le Dieu de paix sera avec vous. Un autre texte, avant, dans les Corinthiens, vous le méditerez ce texte. Demain matin, prenez ce texte des Philippiens, peut-être deux ou trois cultes de suite, personnels, et vous verrez que vous apprendrez à contrôler vos pensées. C'est important ça. Un chrétien, il doit veiller sur ses pensées. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3. Ce verset nous rappelle que la chair nous poursuit, qu'elle est là, elle essaie de ressurgir. 2 Corinthiens 10, verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Alors, elles sont où ces forteresses? Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Vous avez vu où se situe le combat spirituel? Dans les pensées, dans les raisonnements. Nous ne nous rendons pas compte le combat qu'il y a là-dedans. Je ne sais pas vous, mais frères et sœurs, ces deux textes nous prouvent que c'est à nous d'amener nos pensées captives. Moi, je sais que souvent, quand on a tous des embrouilles, des petits trucs comme ça, j'ai souvent ce verset qui me vient à l'esprit, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Alors, on bénit la situation. Voilà, c'est ça, amener nos pensées captives. On pourrait prendre énormément d'exemples, mais quelqu'un qui ne lit pas la parole de Dieu ne pourra pas amener ses pensées captives. Quelqu'un qui ne lit pas la parole de Dieu ne pourra pas entretenir des pensées pures, saines, propres, honorables, comme on vient de le lire dans Philippiens chapitre 4. Nous devons demander à Dieu d'avoir en nous cet écrit. Ayez en vous les sentiments, c'est-à-dire les pensées qui étaient dans Jésus-Christ. Alors il faut l'expliquer. C'est pour ça que j'ai pris ce texte dans les Proverbes. Heureux l'homme qui m'écoute. Parce qu'en écoutant ces choses, en les méditant, en y réfléchissant, eh bien nous allons arriver à vivre dans cette mentalité de Christ. C'est supérieur à quelques études ou à quelques réunions dans une église. Nous allons revenir à ce texte dans 1 Corinthiens au chapitre 2 pour comprendre ce soir ce qu'est un homme charnel, ce qu'est un homme naturel et ce qu'est un homme spirituel. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 13. C'était l'introduction, j'y tenais. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 13. Il faudrait lire tout le chapitre 2, mais verset 14. Du verset 14, 1 Corinthiens 2 14. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Je vous donne un petit témoignage. La semaine dernière, j'ai fait une visite dans un hôpital. Quand la personne m'a vu rentrer et qu'il y avait l'infirmière, il va prier pour vous. C'est mon pasteur, il va prier pour vous, il faut qu'il prie pour vous. Et cette femme a réagi, elle dit, non, écoutez, moi je viens de perdre mon mari d'un accident. Mon fils a failli mourir avec. Moi, Dieu, je ne veux pas. Mais si, il faut qu'on prie pour vous, voyez. Et moi, j'ai pris cette femme, j'ai dit, écoutez, parce que vous voyez, un homme naturel, il n'accepte pas les choses de Dieu. J'ai dit, demandez à Dieu qu'il vous console. Faites cette première expérience avec Dieu. Et les gens qui ne sont pas nés de nouveau ne peuvent pas comprendre les choses de Dieu. Ils ne peuvent pas les accepter. Ils ne peuvent pas les concevoir. Alors, faisons attention. proposons-leur d'invoquer la grâce de Dieu. Mais ne les abrutissons pas, ne les saoulons pas avec des choses qu'ils ne peuvent pas comprendre. Il y a des chrétiens déjà, ils ne comprennent pas. C'est important, apprendre à rendre témoignage. Que de dégâts, si vous saviez tout ce que je suis obligé de réparer. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître. C'est pas qu'il veut pas, c'est qu'il peut pas les connaître. Ne jugez pas un inconverti parce qu'il comprend pas. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous, nous avons la pensée de Christ. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Donc Paul parle dans ce texte de l'homme naturel, de l'homme charnel et de l'homme spirituel. Tout d'abord, l'homme naturel. L'homme qui n'est pas né de nouveau, il a peut-être une religion, qu'il soit athée, qu'il se dise athée, ou qu'il ait une religion, ça ne change rien en vérité. Il n'est pas né de nouveau, il n'est pas régénéré. Nous, des fois, on dit, ah, celui-là, il risque de se convertir parce qu'il est religieux. Tiens, il a telle religion. Celui-là, il ne se convertira jamais parce que c'est un blasphémateur. Vous n'avez vérifié que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que quelqu'un est blasphémateur qu'il se convertira. Ce n'est pas parce que quelqu'un a une religion qu'il se convertira. Et ça, vous voyez comment on a vite fait. Ça, c'est les sentiments qui nous jouent des tours. L'homme naturel, c'est celui qui n'est pas né de nouveau. Il n'est pas régénéré par le Seigneur. Il a un esprit, une âme et un corps, mais il est né tout entier dans le péché. C'est écrit. Vous vous rappelez quand Jésus... Moi, ça m'a marqué quand j'ai lu l'Évangile pour la première fois, quand Jésus parle avec des pasteurs de l'époque, des pharisiens, etc., et qui commence à lui mettre la pression, etc., Jésus va leur dire, vous avez pour père le diable. Moi, c'est quelque chose qui m'a interpellé. Ça ne vous a pas choqué la première fois que vous avez lu ça? Moi, ça m'a choqué. Et un homme qui n'est pas né de nouveau, il est, sans s'en rendre compte, il est dans le royaume des ténèbres. Il a pour père le diable. Vous comprenez pourquoi Dieu dit à un chrétien, à un fidèle, de ne pas se mettre avec un infidèle? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Vous voyez, c'est la preuve d'un aveuglement total. Un homme qui n'est pas passé par la nouvelle naissance est dans les ténèbres de la mort. Son esprit est mort. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit. Son esprit est mort, il est loin de Dieu, il est séparé de Dieu. Et même s'il est dit que Jésus est mort sur le bois de la croix pour lui donner la vie éternelle, la Bible dit que celui qui n'a pas le Fils, la colère de Dieu demeure sur lui. Et s'il meurt dans cet état, il sera jugé et condamné. Il faut dire ces choses. Vous savez, Dieu ne bénira que sa parole. Ce n'est pas de la dureté, ce n'est pas de la doctrine difficile, c'est la vérité. Lisez-le avec moi, parce que c'est bien qu'on donne des textes, parce que certaines des fois me disent « Oh, monsieur Gault, vous êtes dur », mais je ne suis pas dur. C'est la parole de Dieu qui dit ces choses. Peut-être que je le dis avec moi, pas assez de douceur, ça d'accord, mais ça n'empêche que c'est la parole. Jean chapitre 3, verset 36. On aime Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais on doit aussi aimer Jean, chapitre 3, 36. C'est important, parce qu'il y a des gens qui s'imaginent que parce que des gens étaient bons, parce qu'ils étaient gentils, parce qu'ils étaient de telle religion, ils sont sauvés. On n'est pas sauvé parce qu'on a une religion, on est sauvé parce qu'on se convertit à Jésus-Christ. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, ce n'est pas plus clair, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Alors souvent, l'homme qui n'est pas régénéré, regardez les pharisiens, pourtant ils connaissaient la Torah, croyez-moi. Hein. L'homme qui n'est pas régénéré n'est pas conscient de son état. Vous vous rappelez, vous, de l'état spirituel dans lequel vous étiez avant votre conversion? Non, vous ne vous en rappelez pas. Hein, vous aviez une religion, mais vous n'aviez pas conscience de la perdition éternelle. D'accord? Les seules personnes non régénérées qui ont conscience de leur esprit, ce sont ceux qui trafiquent avec la puissance des ténèbres. Voilà, ça je peux vous dire qu'ils sont conscients qu'ils ont un esprit. Les sorciers, les guérisseurs, les voyants, les spirites, les magiciens, tous les occultistes possibles et inimaginables, ces personnes-là savent très bien qu'elles ont un esprit. Alors ils sont dans la confusion, certains pensent qu'ils le font pour Dieu, vous avez peut-être même vu déjà des magnétiseurs qui disent que ce qu'ils font, ils le font pour le Seigneur. Quand on les questionne un peu plus, on se rend compte qu'ils sont dans des frayeurs pas possibles. Mais voilà, certains pensent qu'ils possèdent même des dons de Dieu. Vous avez déjà vu ça. Ils pensent, mais en vérité, tout ça est sous le contrôle des démons. Ils en sont conscients ou ils n'en sont pas conscients. Moi, j'ai connu une voyante qui, à force de voir ce qui se produisait, a réalisé que c'était la puissance des ténèbres. Mais vous savez, c'était l'homme religieux de sa ville qui lui demandait de le faire, donc elle croyait que ça venait de Dieu. Et puis, comme les gens venaient la voir presque toujours pour du mal, voilà, j'aimerais que vous me disiez, j'aimerais que mon mari meure, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? C'était que des trucs comme ça. Elle s'est rendue compte que chaque fois qu'elle avançait là-dedans, c'était dans les ténèbres. Mais elle croyait au départ le faire pour Dieu, parce que là. Donc, les seuls qui sont souvent conscients de leur esprit avant leur régénération, ce sont les âmes qui trafiquent avec les ténèbres. L'homme qui n'est pas régénéré, il est soumis entièrement à la loi du péché et à la mort. C'est son âme qui décide tout et il ne comprend rien. On va revenir à ce verset de Romains 7. Ce passage qui résume la vie de Paul quand il était charnel, malgré le fait, ça nous encourage en même temps. Parce que l'apôtre Paul, qui était vraiment un homme de Dieu, est passé par ce passage. C'est peut-être par ses études que nous allons être délivrés également nous aussi, hein, ceux qui ne sont pas dans la victoire. Romains chapitre 8, 7, entre Romains 6, 7 et 8, je me mélange un peu. Romains 7, verset 18. Quand Paul écrit ces choses, il y a longtemps qu'il était converti. Mais il résume son expérience après sa conversion. Romains chapitre 7, verset 18. « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi une loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. » C'est bien que vous compreniez que c'est une loi. « Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captive de la loi du péché et qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et le chapitre 8 explique bien sûr la victoire qu'il a eue par la révélation de la croix. Il a passé une époque où il était charnel. Comme nous, après notre conversion, eh bien, ça prend du temps, plus ou moins, où les chrétiens, et même il y en a qui ont 10 ans, 20 ans de conversion, et qui continuent à être bloqués sur le verset 24. Il faut rentrer dans le chapitre 8 des Romains, si nous voulons, la puissance du Saint-Esprit. Mais moi, je trouve c'est extraordinaire, cette honnêteté de la part de l'apôtre Paul qui explique ce qu'il a vécu avant d'entrer dans cette vie de victoire. Ça ne peut que nous encourager. Ces passages nous montrent que la loi du péché et de la mort, malgré notre conversion, elle est encore dans nos corps. Ça a été injecté dans le corps de tous les hommes à la chute. C'est comme ça. Elle se transmet à tous les hommes. Dès qu'un homme naît sur la terre, il y a la loi du péché et de la mort qui est en lui. Alors, c'est là que le chrétien est confronté à un problème. C'est la raison de nos réunions, de nos études en ce moment. Comment apprendre à désactiver cette loi du péché? On emploie ce mot souvent aujourd'hui, désactiver les choses, hein, désactiver l'appareil, etc. Désactiver cette loi du péché afin que l'âme et le corps deviennent les instruments de l'esprit. Voilà exactement ce que Dieu veut, que ce soit l'esprit qui dirige. Alors, même si c'est l'esprit qui dirige, cette loi, elle demeure toujours dans notre corps, jusqu'à notre mort. On se demande pourquoi Dieu l'a voulu ainsi. Écoutez, bon, c'est pas moi, je ne pourrais pas vous répondre là. Que le Seigneur nous aide, et il va nous aider. Tous ceux qui ont soif de l'esprit de Dieu, de voir la gloire de Dieu, devront accepter le fait que nous devons corriger, réformer nos voies pour apprendre à marcher selon l'esprit. Mais à l'écoute de la prédication, nous avons été touchés, le Saint-Esprit nous a convaincus de péché, nous nous sommes rendus compte de notre état de perdition, et la seule solution, ce n'était pas de changer de religion ou de changer d'église, c'était d'accepter Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur. J'ai souvent insisté, mais j'insiste encore, peut-être pour des personnes qui ne sont pas converties, vous aimez Jésus, mais vous êtes toujours pareil qu'avant, c'est parce que vous avez accepté Jésus comme sauveur, vous ne l'avez pas accepté comme Seigneur, et voilà l'ambiguïté encore plus grave que le problème qui nous préoccupe. Lorsque quelqu'un est convaincu de péché, soit il demande pardon, soit il reste dans son péché, mais quand il demande pardon, il confesse son péché, et la Bible nous dit, gloire à Dieu, que le sang de Jésus efface son péché. Et Dieu, lorsque vous vous repentez, et lorsque vous vous convertissez, vous donne un esprit nouveau. Votre cœur a été changé. Je me souviens, c'était un mardi soir. Et vous, c'était quand? Vous vous rappelez quand c'était? Hein? Alors, le Saint-Esprit vient habiter dans notre esprit. C'est pour ça qu'il est écrit que nul ne peut dire Jésus est Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Est-ce que vous croyez que Jésus est Dieu? Moi, j'ai discuté avec des chrétiens. Vous savez, ça, c'est un test. C'est écrit. Nul ne peut dire Jésus est Seigneur. Vous vous rappelez quand Thomas a dit « Mon Seigneur et mon Dieu » quand il a vu Jésus-Christ ressuscité avec les marques des clous dans ses mains et dans son côté, il a vu que Jésus était Dieu. Il a dit « Mon Seigneur et mon Dieu » D majuscule. Nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. À quoi reconnaît-on quelqu'un qui est vraiment régénéré? Il sait que Jésus est Dieu. Et je vous assure, même dans le mouvement, je ne sais pas si tu étais Jérémie, on a entendu que des prédicateurs de chez nous enseignaient que Jésus n'était pas Dieu. Ah mais c'est grave, je peux le dire, écoutez, c'est très bien que je le dise. Ça, c'est vrai. Il faut le dire. Ces pasteurs qui enseignent chez Sauge ne sont pas nés de nouveau. Quelqu'un qui est né de nouveau, il confesse que Jésus-Christ est le Seigneur. Alléluia. Voilà le premier pas dans une véritable conversion. Si vous ne croyez pas que Jésus est Dieu, vous avez besoin d'un entretien. Alors, le corps n'est pas régénéré, j'en ai parlé dimanche matin. L'âme non plus, elle reste avec ses pensées, c'est pour ça que nous avons du mal à nous en sortir. Elle reste avec ses sentiments, elle est pleine du monde. La Bible parle de ceux qui marchent selon l'esprit du monde, que celui qui se rend conforme à l'esprit du monde, il se rend ennemi de Dieu, etc. Alors, il a reçu le pardon, il a reçu la paix, mais voilà, sa vie n'a pas été crucifiée. Voyez, le jour de sa conversion. Le jour de la conversion, c'est extraordinaire, non? Et on reçoit la paix, le pardon, on saute comme des veaux dans les prés, c'est pas vrai? C'est extraordinaire. Hein? Mais voilà, la conversion ne fait pas que la chair va être crucifiée. Ça serait bien hein, si le jour de la conversion, tout ça s'était bâclé. Eh bien non. La prédication de la croix apporte le salut de l'âme. Et nous allons voir plus loin ce que c'est la communion de la croix. Le chrétien de nouveau, il porte en lui deux natures, le vieil homme et le nouvel homme, d'accord? L'homme nouveau, c'est son esprit régénéré qui devra prendre le contrôle de la vie de l'âme et de la vie du corps. Et là, c'est une question qui commence déjà à nous préoccuper, ça fait deux ou trois fois que j'en parle. Est-ce que vous y avez réfléchi? Est-ce que votre corps est un instrument de justice entre les mains de Dieu? Est-ce que votre âme est un instrument entre les mains de votre esprit? Est-ce que ça va mieux depuis quelques semaines? Est-ce que vous y travaillez? Ou est-ce que juste vous voulez une étude biblique là-dessus? Vous y travaillez, mes frères et sœurs? J'espère que c'est véritablement une joie que de dire on va travailler à ce sujet. En tous les cas, il va y avoir une grande, grande différence dans l'Assemblée avec les chrétiens qui vont s'appliquer à ce sujet et ceux qui ne vont pas s'y appliquer, croyez-moi. Donc, on vient de parler de l'homme généré et quand il se convertit. Le chrétien charnel maintenant, le chrétien charnel. C'est là qu'est le problème. Vous l'avez vu, si vous avez lu les écrits de Paul, c'est là que se situe le problème. C'est là qu'il y a un véritable combat. Parce que c'est un problème, parce que l'œuvre de Dieu ne peut pas se faire. Mais c'est un deuxième problème, parce que dans le cœur des chrétiens, il y a un véritable combat. Le chrétien qui passe par la nouvelle naissance, il est joyeux du salut. C'est évident. C'est pour ça que moi je dis au meneur de chant, commencez toujours une réunion avec un chant qui exprime la joie du salut. Parce qu'il y a une grande joie à être sauvé. C'est important de commencer nos cultes avec des cantiques qui nous parlent de la joie du salut. Je crois que c'est important pour les chrétiens, c'est important pour les nouvelles personnes. Mais voilà, de la même manière qu'il y a la joie du salut, en même temps, nous sommes conscients qu'il y a cette fameuse loi qu'on est en train de lire du péché qui également, qui essaie toujours de nous dominer. C'est vrai ou c'est pas vrai? Hein, on a la joie du salut, et en même temps, il y a une loi qui lutte dans nos membres, c'est la loi du péché. Je le répète, ce n'est pas des actes. C'est d'abord une loi. Ce n'est pas quelque chose qu'on va vaincre avec notre volonté. La loi de la gravitation, ça se gagne pas avec la volonté. Ça se gagne avec une autre loi beaucoup plus forte. C'est ce combat que nous avons lu tout à l'heure, le combat de l'apôtre Paul avant la victoire. Le chrétien charnel est un chrétien qui est passé par la nouvelle naissance. Il sait que la vie de Christ est dans sa vie, il le sait, mais il reste contrôlé par la chair. C'est ça le problème, c'est ce que Paul dit aux Corinthiens. Il est contrôlé par la chair, il aime Dieu, il peut chanter que s'il est en Christ. Il y a un chant qui dit « Je suis une nouvelle création ». Un chrétien charnel, il peut le chanter. Hein, une nouvelle création. Voilà, on peut le chanter. Paul a dit, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il peut le chanter. Il le comprend, ce verset. Il sait qu'il a en lui le Seigneur Jésus-Christ. Il va essayer d'obéir. Au-delà, après, de la joie du pardon, au-delà de la joie du salut, il va essayer d'obéir, mais il n'y arrive pas. Il a obtenu des victoires, il a remporté certaines victoires, il se droguait, il buvait, il fumait, il a pris certaines grosses victoires. C'est des grosses victoires, ça, non ? Hein ? Voilà, il était grossier, je ne sais pas, il volait, il mentait. Ne faites pas comme ce gars, un jour, ce gitan qui rendait un témoignage et qui disait « Maintenant, je suis heureux, maintenant que je suis chrétien, je vole beaucoup moins. » Vous voyez ? Bon. Je crois qu'il y avait quand même un problème. Mais c'est vrai cette affaire. Je vous assure que c'est vrai. Bon, enfin, ça nous ramène quand même un peu au sujet. On prend certaines victoires, mais il y a cette loi du péché qui cherche à nous dominer et on se demande si on va avoir la victoire. Oui ou non ? Est-ce que ça ne résume pas un petit peu tout ce qui se passe après notre conversion, après la joie, après le pardon? On a pris des victoires, on a témoigné, il m'est arrivé ci, il m'est arrivé là, j'ai prié, Dieu m'a délivré. Et c'est vrai tout ça. Mais la loi du péché est liée. La loi du péché essaie de nous dominer, je le répète. Le péché, c'est une loi. Lisez le nombre de fois où l'apôtre Paul le répète. Et ce combat est malheureux, ce combat est douloureux plutôt, parce que c'est là que beaucoup de chrétiens abandonnent. Pourquoi les chrétiens, ils abandonnent ? Parce que ce sont tous qui retombent dans le péché ? Je ne crois pas que tous retombent dans le péché. Je crois que beaucoup de croyants abandonnent parce qu'ils n'arrivent pas à prendre la victoire sur ce combat-là. Et ils sont découragés, je n'y arrive pas, et c'est sûr, et on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas avec nos propres forces, et parce qu'on n'a pas compris. Et c'est pour ça, c'est vrai que Romains 7, 6, 7 et 8, est-ce que c'est les chapitres les plus faciles à comprendre dans la Bible ? Non. Voilà, nous en sommes là, comme Paul, misérable que je suis, qui me délivrera. Il était désespéré, Paul. C'était un homme de Dieu, c'était une drôle de pointure, Paul. Et pourtant, il exprime cette souffrance après sa conversion. Misérable que je suis, mais qui me délivrera ? Vous ne croyez pas qu'il a essayé par ses propres forces ? Eh bien, il n'y est pas arrivé. C'est un moment très difficile, ce moment où après le salut, quelques semaines après, quelques mois après, eh bien, nous sommes confrontés à ce combat spirituel. Alors, que Dieu nous aide, mes frères et sœurs, à comprendre ces principes. Que Dieu nous aide à comprendre les prochaines études. Parce que, où c'est l'un, ou c'est l'autre. Ou nous marchons selon la chair, ou nous allons marcher selon l'esprit. Vous êtes d'accord ? Ou alors, un peu l'un, un peu l'autre, mais ce n'est pas la solution. On comprend pourquoi Jésus dit, voyez, après avoir parlé de la croix, et qu'il ne comprend pas, il dit, mais attends, vous aussi, vous devez porter la croix. Il y a les bénédictions de la croix, mais il y a la communion de la croix. Et mes frères et sœurs, tout est là. Et je voudrais que nous y allions petit à petit, avec beaucoup de joie, car c'est une grande bénédiction que de comprendre ces choses. Vous voyez, Jésus n'a pas réexpliqué la croix pour lui, il a expliqué la croix pour eux. Mes frères et sœurs, c'est important. Il le dit, si le grain qui est tombé en terre, de blé de tombe en terre ne meurt, il ne pourra pas y avoir de fruits. Il faudra vraiment apprendre ce que signifie la loi de l'esprit. Il faudra comprendre ce que c'est la mort de la chair. Voilà, mais c'est une bénédiction. Est-ce qu'on peut prier dans ce sens ? Dans les jours à venir, chez nous, Seigneur, apprends-moi à marcher selon l'esprit. Vous ne croyez pas que Dieu va vous aider ? Vous croyez que si quelqu'un dit « Seigneur, fais-moi gagner au loto », cette prière-là, elle ne va pas toucher le plafond. Mais si un chrétien il dit « Seigneur, apprends-moi à marcher selon l'Esprit », vous ne croyez pas que Dieu va l'entendre cette prière? Vous croyez que méchants comme nous sommes, nous qui nous donnons de bonnes choses à nos enfants, lui, le Seigneur, ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Mes frères et sœurs, c'est ça. Mais le chrétien charnel, il n'y arrive pas. Il reste bloqué au verset 24. Misérable que je suis, misérable que je suis. Et parfois, que Dieu me garde de juger. Mais il y a des chrétiens, ils en sont là toute leur vie. Le dimanche, ça sert à essayer de retrouver la communion avec Dieu. Ils en sont là, ils sont dans cette lourdeur, dans cette souffrance. Ils souffrent. Mais parce qu'il laisse cette loi du péché dominer, alors qu'il y a la loi de l'esprit extraordinairement plus grande qui devrait dominer notre être. Alors le chrétien spirituel, c'est celui qui a appris Christ. Vous rappelez le verset qu'on a vu dimanche ? Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. C'est un verset qui est très fort pour comprendre la vie de l'esprit. C'est un chrétien qui apprend, comme on est en train de le faire, à marcher par l'esprit. Il comprend comment fonctionne cette loi de l'esprit. Dimanche, je pense, vous donner beaucoup plus de réponses par rapport aux pièges, justement, aux pièges qui existent et aux bénédictions qui doivent se présenter. Bien sûr qu'un chrétien spirituel, il sait qu'il est habité par le Saint-Esprit. Il sait que son corps est le temple du Saint-Esprit. Il comprend sa position spirituelle. Quand Paul dit « Vous êtes assis dans les lieux célestes en Christ », Je vous suggère à ce niveau un livre de Washmani qui s'appelle « Être assis, marcher, tenir ferme ». Commandez-le. C'est un petit bouquin, je crois qu'il coûte 4 ou 5 euros, ce n'est pas le prix. Mais c'est pour vous dire que ce n'est pas excessif. Et il explique que l'Épître aux Éphésiens part de là. Il faut d'abord être assis dans les lieux célestes. Nous, on veut marcher. Nous, on veut servir, on veut marcher, on veut servir, on veut servir, on veut servir. Mais ce texte nous enseigne qu'avant de marcher dans la vie spirituelle et avant de tenir ferme, il faut d'abord être assis en Christ. Ça tient debout ce livre. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Moi, c'est un livre qui m'a fait beaucoup de bien, qui m'a permis de me remettre en question par rapport à tout ce qu'on est en train de partager. Lisez ce livre. Il va énormément vous aider. C'est très, très profond. C'est très sérieux. Mais c'est vrai. Et c'est pour ça que les chrétiens sont malheureux, que les églises n'avancent pas. On met les gens au service, alors qu'on aurait dû les mettre en Christ, assis dans les lieux célestes. Un chrétien, il le sait, un chrétien spirituel, il doit d'abord être assis dans les lieux célestes. Ce n'est pas physiquement. Spirituellement, il règne. Il domine, il commence sa journée, il impose le calme à son âme. Comme David le dit dans le psaume 131, dans la version La Colombe, il dit « Je ne m'occupe pas de choses trop grandes ou trop élevées pour moi », pourtant c'est le roi, il aurait pu. Il dit « Mais non, j'ai l'âme calme et tranquille, j'ai imposé le calme et le silence à mon âme comme un enfant sevré sur le sein de sa mère, comme un bébé qui a pris la tétée, il est repu et il s'endort ». Quelle belle image d'un chrétien qui s'est nourri, il a imposé le calme. Son esprit règne, il est assis dans les lieux célestes. N'essayez pas de monter sur une tour pour être assis dans les lieux célestes, ce n'est pas géographique, c'est vraiment spirituel. Le chrétien spirituel, il fait ce qu'on est en train de faire maintenant. Il commence à essayer à comprendre, non pas à chercher la bénédiction, les bénédictions, bénis-moi, bénis-moi. Ça fait peine quand même quand on entend des chrétiens que leur seule prière de la journée c'est « Seigneur, bénis-moi, bénis ma journée, garde-moi, protège-moi ». Il faut le faire. Je pense qu'il faut demander à Dieu qu'il nous protège, que Dieu nous délivre du malin. Toutes ces choses, il faut les faire. Moi, presque tous les jours, je rappelle cette prière du Seigneur qu'il a enseignée, notre Père qui est aux cieux, « Délivre-nous du malin ». Parce qu'il y en a des ruses, croyez-moi. Et on peut demander la protection, on peut demander la bénédiction, mais vous avouerez que si notre communion avec Dieu est contenue que dans la demande de bénédiction, ce n'est pas très, très, très spirituel. Le chrétien spirituel, il sait qu'il a une nature spirituelle, il sait qu'il a une nature charnelle, et il travaille à se dépouiller du vieil homme et à revêtir l'homme nouveau. Il ne cherche pas à dépendre de ses émotions. L'autre jour, une dame me disait « Oh, ce matin, je suis venu, ce n'est pas pour la critiquer, je ne sais même pas si elle est là, ce n'est pas grave. Si vous êtes là, c'est bien. » Et cette heure, elle me disait « Oh, je suis venu louer le Seigneur parce que je suis contente, j'ai eu une bénédiction, je suis venu louer le Seigneur. » Mais moi, je vais vous dire, qu'on soit content ou pas content. Vous voyez, c'est ça les sentiments. Je me souviens de mon fils Jonathan, il y a peut-être 10 ans de ça. Un soir, on était en train de manger, il me dit « Papa, « Papa, tu loues le Seigneur tous les dimanches matin ?»« Oui. Tu as envie de le faire tous les dimanches matin ?»« Je ne sais rien. Je ne sais rien. Si j'ai envie ou si j'ai pas envie, il n'est pas dit « Prie si tu as envie. » Il a dit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. » Il n'est pas dit « Si tu es de bon poil. » Il est dit « Adore le Seigneur ton Dieu. » Par contre, il faut le faire de tout son cœur. Attention. Mais le chrétien spirituel, il ne dépend pas de ses émotions. « Ah, aujourd'hui, ça va bien. Oh, je suis content. Ma femme a été gentille. Seigneur Jésus, merci, mon Dieu. » Mais que votre femme soit gentille ou que votre femme le soit un petit peu moins, il faut louer le Seigneur. « Je bénirai l'Éternel en tout temps. » Un chrétien spirituel, il a mis de côté ses émotions. Vous comprenez? Il y a déjà, oh, je prie pas, je n'ose pas, j'ai pas envie. Mes frères et sœurs, le chrétien spirituel, il a mis de côté ses émotions, ce que les autres vont penser. Ah, mais je prie pas haute voix parce que j'ai peur de bafouiller. Mais alors, est-ce que ça vous gêne, vous les chrétiens, d'entendre un chrétien bafouiller? Ça vous gêne si quelqu'un se mâche les mots, s'il ne comprend pas? Moi, ça m'arrive pas, moi. Vous me jugez parce que des fois, j'articule mal un mot? Ça, c'est la chair, parce que c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil, vous pouvez l'expliquer comme conscient ou inconscient. Mais mes frères et sœurs, il y a des commandements, les commandements, on les accepte. Oui ou non? Est-ce que quelqu'un peut me reprendre là-dessus? Est-ce que quelqu'un peut dire, non, c'est pas vrai, je suis pas d'accord? Mes frères et sœurs, les commandements de Dieu, ils sont pas pénibles. C'est nous qui sommes pénibles. Les commandements de Dieu, ils sont pas pénibles. Tout ce que Dieu nous demande, on peut le faire. C'est vrai ou c'est pas vrai? On peut le faire, on doit le faire, et on doit le faire de bon cœur. Quand Dieu nous parle de consécration, ça ne doit pas être une corvée. C'est la vieille nature qui nous fait croire que c'est une corvée. La consécration, mes frères et sœurs, c'est un honneur de se consacrer pour Dieu. C'est un privilège. Et un chrétien, il travaille à ça. Vous voyez, je viens de vous donner quelques éléments. Il ne dépend pas de ses émotions. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Qu'est-ce que les autres vont dire? Un chrétien, il est surtout conscient qu'il fait ce que Dieu lui demande. Voilà, c'est tout. Le Seigneur me demande de témoigner. Eh bien, Seigneur, tu vas m'aider. Oui, je suis timide. Mais Seigneur, je vais prendre la victoire. Vous ne croyez pas que si le Saint-Esprit grandit de plus en plus en nous, on risque d'avoir de grosses surprises et de grosses victoires sur la timidité? Oui ou non? Moi aussi, des fois, je ne sais pas comment témoigner. Je ne sais pas. Mais vous croyez qu'on est tous pareils? Mais je crois qu'on se fait violence. Et on dit, voilà, j'ai pas eu le temps de vous parler. Vous savez, je suis pasteur, ça m'est arrivé dernièrement. J'ai pris 2 autostoppeurs, il pleuvait comme tout, je les ai pris. J'ai peur qu'ils me salissent la voiture, vous voyez, comme je suis spirituel. Hein? Et puis ça fait rien. Et je leur ai donné des évangiles. Je leur ai dit, écoutez, voilà, je suis pasteur. C'était une petite distance. J'ai pas eu le temps de vous témoigner. Pensez à votre âme. Un jour, vous passerez devant Dieu. Ils m'ont regardé, ils étaient mouillés, alors je voyais pas trop, mais... Est-ce que ça suffit? C'était quoi le plus important? Que je leur parle pendant un quart d'heure de Jésus ou que je leur donne un évangile? Voilà. Et je crois qu'on peut prendre des victoires. Saint-Esprit va nous aider. Dieu va nous... Il a dit, je suis votre aide. C'est pas écrit, le Seigneur est votre aide. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, qu'il va nous aider. Et cet homme créé selon Dieu, on va le lire avec moi, dans Éphésiens chapitre 4. Cet homme créé selon Dieu. N'oubliez pas qu'en vous, le Seigneur Jésus habite. Est-ce que vous réalisez que Jésus-Christ est en vous? Je ne sais pas si on le réalise pleinement. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas la victoire. Éphésiens chapitre 4, verset 24. Regardez bien. Cet homme créé selon Dieu. Parce que tout s'articule là. Dimanche, on verra normalement, à moins que j'ai autre chose à cœur, les pièges. Les pièges de la chair. Éphésiens chapitre 4, verset 24. À revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pour ça que je vous disais que ce n'est pas ce qu'on pense qui est important, c'est la vérité. Et les chrétiens, des fois, ils sont sincères. Je vous donne ce témoignage, il m'est venu à l'esprit pendant que je préparais la prédication. Une jeune fille de l'église, il y a 3 ou 4 ans, qui était étudiante à Toulouse, elle est venue me voir, on a discuté, elle louait le Seigneur, elle priait dans l'église. Et un jour, j'ai eu besoin d'avoir un entretien avec elle. Et je me suis rendu compte que cette jeune fille avait un copain qu'elle vivait avec, qu'elle couchait avec. Et j'ai fait le point avec elle, j'ai dit, mais mademoiselle, est-ce que vous avez réalisé le décalage qu'il y a entre vos prières et votre comportement? Oh, elle me dit, mais je sais, monsieur Gaud, mais moi je crois. Mais ça ne m'a pas fait rire, ça m'a fait pleurer en vérité. J'ai fini l'entretien pleurant. Et j'ai dit à cette jeune fille, mais vous vous rendez compte, vous êtes perdue? Ah non, monsieur Gaud, moi je crois que Dieu peut changer d'avis. Et je suis sincère. Je dis, mais ce n'est pas la sincérité que Dieu veut.
c'est cette intégrité devant la vérité. Ah, mais dis-moi, je suis sûr que Dieu, il est bon, il m'aime, et il va changer d'avis que Dieu peut accepter que je couche avec un garçon sans être marié. Dieu est bon, Dieu est plein d'amour. Je dis, écoutez, mademoiselle, vous n'êtes pas convertie. Et si un jour, elle m'a dit de tout, elle était furieuse. Et je sais qu'en pleurant, je lui ai dit en pleurant parce que je savais qu'elle ne reviendrait pas. J'ai dit, mademoiselle, un jour, vous passerez devant Dieu. Et je ne veux pas avoir la responsabilité de ne pas vous l'avoir dit. Je vous en supplie. Donnez votre cœur au Seigneur. Et puis elle m'a dit au revoir. Je ne l'ai plus jamais revue. La sainteté que crée la vérité. Vous l'avez lu, hein? La justice et la sainteté que crée la vérité. Ce qui est important, c'est la vérité de la parole. Le critère de la vérité, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas notre gentille sincérité. Oh, le Seigneur est bon, on ira tous au paradis. C'est ça la sincérité. Il y en a plein qui le pensent. Il y en a plein qui le pensent. Un chrétien charnel fonctionne avec ses émotions, sa sensibilité, sa sentimentalité, sa sincérité. Un chrétien spirituel, il fonctionne avec la vérité. Dieu l'a dit, ben je le crois. C'est pas être bête, aveugle et borné, c'est être intègre. Dieu l'a dit, je le crois et je le fais. Voilà, il purifie son âme. Regardez avec moi ce verset, 1 Pierre chapitre 1er. C'est important, vous savez, mes frères et sœurs. Il y a trop de chrétiens, même dans mon assemblée, ça j'en ai honte, de chrétiens parmi nous, encore, qui ne dépendent pas de la vérité. Vous dépendez, certains, de votre émotion, de votre sensibilité, de votre sincérité. La sincérité, vous connaissez ce verset, ce proverbe religieux, le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions. Voilà. Ça, il est bien ce proverbe. 1 Pierre, chapitre 1er, mais il n'est pas vrai. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 22. Pour vous expliquer que notre esprit, lorsqu'il domine, il va purifier notre âme. Là, on va un petit peu plus loin dans la victoire. Mais il fallait toutes ces bases. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 22. Ayant purifié vos âmes, la vie de l'esprit, ça purifie l'âme. En obéissant, vous avez vu comment c'est clair? En obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Voyez, alors là c'est sincère dans le sens, alors le mot sincère dans la Bible, c'est pas le mot que nous on utilise, le mot sincère c'est un mot qui signifie sensir, c'était les masques, vous savez, que les acteurs mettaient à l'époque, voilà, ça veut dire sensir, sans masque, voilà, sincère, c'est ça que ça veut dire, sans masque. Après, voyez, quand il est dit au verset 5 du chapitre 2, vous y réfléchirez, ça sera pour plus tard, mais quand il est dit, vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, et qu'est-ce que c'est la conséquence agréable à Dieu par Jésus-Christ. Des victimes spirituelles, on y reviendra. Mais voyez, quand l'esprit est purifié, l'âme est purifiée, et le corps est également spirituel. Et on avancera dans la victoire. L'esprit, l'âme et le corps sont au service de la vérité. Voyez, purifiez vos âmes en obéissant à la vérité. Un chrétien spirituel, il professe la vérité. On l'a lu dans Éphésiens 4, verset, je ne sais plus combien. Il professe la vérité. Il est soucieux de la vérité. Qu'est-ce que Dieu dit? Si je ne me repens pas, je suis perdu. Oh, je sais que c'est vrai. Voilà, il ne dit pas, oh, c'est pas grave. Moi, j'entends de tout. Hein. Mais vous êtes loin de vous imaginer tout ce que j'entends. Tout ce que les gens me disent, pas trop ici, il y en a quelques-uns ici qui sont charnels, c'est dommage que ces études puissent vraiment vous aider. Je dois le dire, je ne vais pas faire l'hypocrite, il y a dans l'Assemblée, il y a des chrétiens qui sont charnels, et même si vous aimez Dieu, mais vous ne dépendez pas de la vérité, vous dépendez de votre sincérité et de vos émotions. Ça risque de vous jouer des tours. Ce qui est important, c'est que le chrétien spirituel, il comprenne un verset. Il y a un verset que j'ai souvent cité, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ça, c'est l'exercice pratique. Un chrétien spirituel, il ne dit pas « Ouais, mais tu étais à ma place, tu t'inquiéterais. » Voilà ce que c'est la chair. Un chrétien spirituel, il dit « Seigneur, tu sais que c'est mon écharde, ça. Je vais ne pas m'inquiéter. Tu me dis de ne pas m'inquiéter, je ne vais pas m'inquiéter. Et je vais prier, supplier, puisqu'il y a des supplications, et te rendre grâce. et la paix de Dieu gardera vos pensées. Vous voyez, c'est comme ça qu'on se dépouille du vieil homme. On dit, je ne m'inquiète pas. Il y a de quoi s'inquiéter. Le monde est ravagé, ça ne va pas faire en s'arrangeant, mais Jésus me garde, je ne m'inquiéterai pas, parce que Dieu me dit de ne pas m'inquiéter. C'est ça, il combat le bon combat, il surmonte le mal par le bien, il utilise le bouclier de la foi. Je crois qu'un chrétien qui participe à une réunion comme celle de ce soir ne peut pas faire autrement que de dire, bon, si je veux combattre, si je veux que la nouvelle nature domine, il faut que je sache manier le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Si vous ne voulez pas lire la Bible, je vous le dis, ces réunions ne vous serviront à rien. À rien. Jérémie faisait allusion à ce verset dans les chants d'Ésaïe ou des psaumes, quand il est dit que la parole de Dieu elle ne retourne pas sans avoir fait son effet. Mais il y a aussi, quand le cœur est ouvert. Mais la Bible dit aussi que la parole qui leur fut adressée ne leur servit à rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Si vous ne vous décidez pas à lire la Bible, cette prédication vous aura servi à rien. Vous avez perdu une heure. Une heure, vous auriez pu la passer devant la télé. Ça servirait, c'est exactement la même chose. Si vous ne vous décidez pas à lire la Bible, cette réunion ne vous servira à rien. Vous me croyez? C'est vrai ce que je vous dis. Je peux vous donner le verset, c'est dans Hébreux chapitre 4, je crois verset 3. Ça ne servira à rien. Un chrétien qui vient comme ce soir pour apprendre à marcher par l'esprit, il va dire, oui, je vais prendre le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Je parlais du psaume 131, j'ai imposé le calme, j'aime ce verset, il m'a fait du bien une époque, j'ai imposé le calme et le silence à mon âme. Voilà quelqu'un qui a l'esprit qui domine. Voilà, il reçoit une flèche, parce que l'ennemi l'en décoche des flèches, comme il en décoche des flèches. Des fois dans la journée, si on les voyait, les flèches dans l'invisible, il y aurait des feux d'artifice dans la ville de Toulouse. Moi, je vous le dis. Mais le bouclier de la foi, un chrétien spirituel dit, je vais prendre le bouclier. Dieu dit, prendre le bouclier. Prenez par-dessus tout le bouclier, l'épée de l'esprit. Je le fais. Et si vous ne lisez pas la Bible, je le répète. Je le répète avec beaucoup de tristesse, parce que c'est quand même accablant. Mais enfin, vous savez, Jésus a prêché, est-ce que tous les gens se sont convertis? Moi, je crois une chose, que ne boiront que ceux qui ont soif. Mais je vous dis devant Dieu, si vous ne lisez pas la Bible, avec votre cœur ouvert, cette réunion n'aura servi qu'à vous faire passer à peu près 50 minutes dans l'écoute de la parole de Dieu. Voilà, un chrétien spirituel, il dit, voilà, je suis dans Romains 7 et je vais basculer dans Romains 8. Je ne vais plus dire misérable que je suis, je vais dire, mais grâce soit rendue en Jésus-Christ. Il va dire, voilà, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Un chrétien doit devenir spirituel, un chrétien né de nouveau. Vous êtes d'accord avec moi? Que les chrétiens de nom ne se perfectionnent pas, heureusement, parce que ça serait intéressant de voir le perfectionnement d'un chrétien qui n'est pas né de nouveau. Mais un chrétien qui est né de nouveau, il doit se perfectionner. Vous vous rappelez, Dieu a donné des pasteurs pour le perfectionnement des saints. Un chrétien né de nouveau doit avoir un pasteur pour le perfectionnement. Si un jour vous me voyez que je ne travaille plus au perfectionnement des saints, reprenez-moi, renvoyez-moi, vous n'aurez plus besoin de moi. Un pasteur, il doit travailler au perfectionnement des saints. La crucifixion de la chair, ce n'est pas qu'une doctrine. Parce que je peux tout vous présenter comme une doctrine. Vous comprenez ce que je veux dire? Quelqu'un peut dire, mais ce qu'il a fait, ce qu'il enseigne, et ouais, c'est doctrinal. C'est bien. Mais je ne veux pas que la crucifixion de la chair soit une doctrine. Il faut que ce soit une expérience. Il faut que ce soit la réalité. Et Jésus a tout accompli. À nous de le réaliser, à nous de le comprendre. Vous comprenez pourquoi j'ai pris le texte des Proverbes? Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes. Il obtient la faveur de l'Éternel. Et Dieu attend ça. Et on va terminer avec ce texte qui nous dit justement que Dieu sera notre aide. C'est dans Hébreux 13. C'est important que vous sachiez, Dieu va vous aider si vraiment vous aspirez à ces choses. Mais je me réadresse pour terminer, pendant que vous cherchez le texte d'Hébreux 13, à ceux qui ne lisent pas la Bible. Par pitié, vous savez, l'apôtre Paul, il a supplié les chrétiens de se réconcilier avec Dieu. Si vous ne lisez pas la Bible, vous ne revêtirez pas l'homme nouveau. Si quelqu'un peut m'expliquer comment on peut revêtir l'homme nouveau sans lire la Bible, sans avoir une vie de piété, qu'il me l'explique. Je le rajouterai dans la prédication de dimanche. Mais que quelqu'un puisse m'expliquer comment on peut revêtir l'homme nouveau, puisque la foi vient de ce que l'on entend. Hébreux chapitre 13, voilà, regardez comment il est beau ce verset. Alors, c'est dans un contexte où, oui, c'est par rapport à l'argent, mais regardez, ça tient debout, parce que justement, il explique qu'il ne faut pas s'inquiéter. On va lire le verset 5. « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, j'aime cette parole, Dieu lui-même, ce n'est pas l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est Dieu, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai pas, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. » Alléluia. Le Seigneur est mon aide. Vous pouvez le dire, ça ? Le Seigneur est mon aide. Le mien, pas celui de Monsieur de Dieu, pas celui de Madame Untel. Le Seigneur, il est mon aide. À moi, comme David disait, l'Éternel est mon berger. Est-ce que vous pouvez le dire dans votre cœur ? Jésus est mon aide. Il est mon aide. Il est mon sauveur. Il n'est pas trop mon Seigneur, mais il va m'aider à ce qu'il soit mon Seigneur. Alléluia. On ferme les yeux une minute, hein, et répondez. Oh, vous qui ne lisez pas la Bible, je vous en supplie. C'est pas moi qui vous supplie. C'est pas moi, c'est Dieu qui vous supplie. Vous savez, quand Paul a supplié les Corinthiens, c'était pas Paul. C'est Dieu qui les suppliait. Parce que c'est grave de ne pas être réconcilié avec Dieu. Et si je vous en supplie de lire la Bible, c'est parce que c'est grave. C'est pas une émotion. Les supplications, c'est biblique. Dieu peut supplier les hommes à se réconcilier. Dieu peut supplier les hommes à chercher sa face. Parce que c'est grave de ne pas le faire. Sinon, ça ne serait pas dit, je vous en supplie. Nous sommes sous son regard, nous sommes venus. Je sais, moi, je ne vous connais pas tout, je sais qu'il y a même des nouveaux. Je ne sais pas si vous comprenez tout. Mais je sais une chose, c'est que Dieu veut nous aider à marcher par l'Esprit. Et il faut comprendre ces choses. Oui, heureux l'homme qui m'écoute. Je voudrais prier pour ceux qui vont se lever, pour ceux qui veulent dire, Seigneur, aide-moi. Seigneur, je veux me corriger, je veux me faire violence, je veux réformer mes voies, je veux prendre des résolutions par ta grâce et pas par mes forces et ma volonté de jeune homme ou de jeune fille. Et je vais prier. Et Dieu va vous aider. Qui c'est qui veut se lever et dire, Seigneur, aide-moi. Seigneur, ce n'est pas possible. Il faut que j'apprenne à dominer mon âme et mon corps. Ce n'est pas possible que ce soit même mon corps maintenant qui me domine. Ce n'est pas possible. Il faut que ce soit ton esprit, Seigneur Jésus. Je voudrais qu'on termine en demandant à Dieu sa miséricorde. C'est par sa grâce, c'est pas par nos forces. Dieu veut vous aider. Oui, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Vous n'avez pas besoin de craindre Dieu si vous l'invoquez pour avoir de l'aide. Si vous lui demandez de l'argent, de gagner au loto, là vous avez des raisons de le craindre. Parce que c'est la preuve que vous vous éloignez de Dieu si l'amour de l'argent est en train de vous mordre. Là vous pouvez craindre. Mais si vous demandez de l'aide à Dieu pour être rempli du Saint-Esprit, vous n'avez rien à craindre. Là, vous n'avez rien à craindre, croyez-moi. Seigneur Jésus, nous sommes devant toi. Tu es dans ce lieu. Et tu veux amener cette Église dans cette victoire où la nouvelle nature dominera le vieil homme. Nous soupirons, Seigneur, après des temps de manifestation, des temps de baptême dans le Saint-Esprit, des temps de restauration, des temps de guérison. Et si nous croyons, Seigneur, que si nous marchons selon l'Esprit, des fleuves d'eau vive vont jaillir de nos vies, de nos seins, de nos cœurs, de nos ventres, comme le dit ta parole. Oui, c'est ce que nous voulons, voir des fleuves d'eau vive inonder cette ville de Toulouse. Seigneur, par la puissance du calvaire, oui, enseigne-nous, Seigneur, au travers de ces études, pardon, à être rempli du Saint-Esprit, à être soumis au Saint-Esprit, à ne pas attrister ton esprit. Seigneur, éclaire-nous et que tous ceux qui sont sous l'emprise de leurs émotions, de leur sensiblerie, de leur affection, Seigneur, sois délivré de cela. Seigneur, oui, nous voulons vivre par l'Esprit. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes les fois où la chair a pris le dessus, où nous n'avons pas médité ces chapitres des Romains, alors qu'il y a un secret pour croire que la loi de l'Esprit nous délivre de la loi du péché. Oui, Seigneur, nous le croyons, que la puissance du Saint-Esprit peut délivrer tous les problèmes. Seigneur Jésus, nous te le demandons dans le beau nom de Jésus, que ta vie se manifeste pour la gloire et l'honneur de ton nom. Merci, Seigneur Jésus.